Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, un simple petit rappel d'abord à propos des retraites. J'ai encore de la place pour les trois retraites d'exercice Saint-Ignace que je prêche ici près d'Albi dans un gîte que je loue. Il y a encore de la place pour les retraites du 27 mai au 1er juin, du 23 septembre au 28 septembre et du 14 au 19 octobre. Les autres retraites, la retraite de Pâques est pleine. Voilà, nous reprenons Saint Matthieu chapitre 19 sur le polycopier qui contient les chapitres 16 à 20. C'est à la page 26. Beaucoup de choses à dire sur ce début de chapitre 19 de Saint Matthieu, entre autres concernant le sacrement de mariage, pour que les choses soient claires, pour répondre à l'objection qu'on entend très fréquemment que notre Seigneur Jésus-Christ avait accepté le divorce et le remariage au début de sa vie publique, ce qui est totalement faux. Voyons le texte. Versets 1 à 8 du chapitre 19 de Saint Matthieu. Il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et vint aux confins de la Judée au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent et il y fit des guérisons. Alors les pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter et lui dirent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme dès le commencement créa un homme et une femme et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi ne sont plus deux mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais lui dire, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme un acte de divorce et de la renvoyer ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors, je voudrais rappeler la doctrine traditionnelle de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage chrétien. Donc, certaines personnes disent, à partir de ce texte, qui parle du libelle de répudiation que Moïse avait accordé dans certains cas, pour empêcher en fait les meurtres entre époux. Donc est-ce que permettait le libelle de répudiation pour une raison gravissime, par exemple adultère? Un homme avait le droit de renvoyer son épouse, mais un renvoi d'épouse ne donnait en aucun cas, ni d'un côté ni de l'autre, la possibilité, la permission de se remarier devant Dieu. Il est évident que le mariage est absolument indissoluble. Je voudrais vous rappeler rapidement l'enseignement de l'Église sur ce sujet. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous avez sur le site internet dont je m'occupe, Dame Marie, vous avez d'abord les lettres dans la série des lettres de doctrine, la lettre numéro 67, annulation de mariage, une grande supercherie, qui résume en 4 pages, vous l'avez en écrit et en audio, la doctrine de l'Église sur le sujet, et puis la conférence doctrinale qui correspond à cette lettre, pour ceux qui veulent étudier un petit peu plus les choses. Donc l'Église a toujours enseigné que le mariage, tout mariage, est le droit naturel intrinsèquement indissoluble. Donc, les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement. Et l'Église enseigne donc qu'un mariage valide, ratifié et consommé entre deux époux catholiques ne peut être dissous, par aucune puissance humaine ni par aucune cause sauf la mort. Donc aucune puissance sur la terre ou au ciel n'a le pouvoir de dissoudre, d'annuler un mariage valide, ratifié et consommé entre deux époux. Alors, il est évident que dans certains cas, une séparation peut être autorisée, soit une séparation totale, c'est-à-dire une séparation de, pas simplement de champ, mais une séparation de maison. Par exemple, si les difficultés entre époux sont telles qu'elles sont plus ou moins irréconciliables, qu'il y a des bagarres tout le temps, mais il vaut mieux se séparer plutôt que de s'entretuer, c'est absolument évident. Mais une séparation ne donne jamais, jamais le droit de se remarier. Alors, il y a quatre cas qu'il faut bien connaître, je les rappelle, parce que comme le sujet de ce texte de Saint Matthieu en parle, je voudrais aborder ce sujet et être sûr que les choses soient claires de ce côté-là. Donc, dans le cas d'un mariage valide et consommé entre deux baptisés, seule la mort de l'un des conjoints rompt le lien sacré et rend l'époux survivant la liberté de contracter de nouvelles noces. Alors, il y a quelques cas, il existe quatre circonstances autorisées par les droits canons dans lesquelles le lien d'un mariage valide peut être rompu. Ce sont des cas très particuliers. Je voudrais vous les rappeler pour qu'il n'y ait pas de confusion. Premier cas, c'est le cas des vœux solennels, dans le cas d'un mariage valide non consommé, c'est-à-dire sans relation physique entre deux baptisés ou même entre un baptisé et un infidèle. Si la partie catholique souhaite rentrer en vie religieuse, voilà le texte, entre dans des vœux solennels de chasteté, il est évident que ces vœux solennels sont incompatibles avec l'état de mariage. Et donc le mariage est dans ce cas-là dissous. Donc voilà le texte du droit canonique. Le mariage donc consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous de plein droit par la profession religieuse solennelle à la demande des deux parties de l'une d'entre elles, même contre le gré de l'autre. Attention, on a ici un cas d'un mariage non consommé. Si le mariage est consommé, c'est impossible, j'ai déjà expliqué. Deuxième cas, par dispense du pape, dans le cas d'un mariage valide, encore une fois non consommé entre deux baptisés ou même un baptisé et un infidèle. Voilà le texte du droit canonique, c'est le canon 1119. Le mariage non consommé entre les baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous par une dispense concédée par le siège apostolique pour une juste cause à la demande des deux parties ou de l'une d'entre elles, même contre le gré de l'autre. Troisième cas, ce qu'on appelle le privilège paulin. Dans le cas d'un mariage naturel, c'est-à-dire un mariage entre deux païens, même consommé, contracté entre deux païens. Donc, si la vie commune devient impossible, après la conversion de l'un des deux époux, et si l'autre époux qui ne veut pas se convertir refuse de vivre pacifiquement avec son époux devenu catholique, dans ce cas-là, il peut y avoir une annulation du mariage. Voilà le texte d'après le droit canonique de l'Église. Encore une fois, pour que les gens ne racontent pas de bêtises sur ce sujet, c'est le canon 1120. Le mariage légitime entre non baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin. Ce privilège ne vaut pas lors d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée, avec dispense de l'empêchement de disparité de culte. Et le canon 1121, avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit demander à la partie non baptisée si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême et si elle veut au moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur. Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège en ait déclaré autrement. Le conjoint, canon 1124, le conjoint infidèle, même si depuis son baptême a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et donc peut user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle ayant changé d'attitude se sépare sans juste cause, ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur. Donc c'est un privilège pour protéger la foi des nouveaux catholiques. Enfin, quatrième cas, le privilège pétrinien, dans le cas d'un mariage valide, même consommé, contracté, soit entre un non-baptisé et un baptisé, en dehors de l'Église catholique, par exemple un anglican de la Haute Église, un orthodoxe, soit entre un non-baptisé et un baptisé dans l'Église catholique, après dispense d'empêchement de disparité de culte. Donc, il est évident que ces quatre cas sont des cas d'exception, et surtout pour les deux premiers, ne sont utilisables que dans le cas d'un mariage non consommé. Et nous allons voir maintenant avec le texte de l'Évangile selon saint Matthieu que les choses sont claires. Notre Seigneur n'a jamais autorisé un remariage après séparation entre deux époux, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est par un dessein salutaire de Dieu, donc c'est page 26 sur le polycopier. C'est par un dessein salutaire de Dieu qu'il a été établi que l'homme devait aimer dans la femme une partie de son propre corps et ne pas regarder comme lui étant étrangère une chair qui reconnaîtrait avoir été tirée de lui. Si donc, parce que la femme vient de l'homme et qu'ils sont tous deux d'une même chair, l'homme doit abandonner son père et sa mère, on doit avoir existé une plus grande affection entre les frères et sœurs qui sortent des mêmes parents tandis que les époux viennent de familles différentes. Cependant, l'affection des époux est de beaucoup supérieure parce que l'institution divine est plus forte que la force même de la nature. Donc, à partir du moment où un contrat est établi devant Dieu entre deux personnes baptisées, un contrat qui accepte bien sûr les conditions sine qua non du contrat pour qu'il y ait un véritable mariage, je vous rappelle les trois conditions sine qua non d'acceptation du contrat pour un mariage catholique, il y a trois conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies au moment du mariage, il n'y a pas de mariage. Première condition, l'indissolubilité. Deuxième condition, l'unité. Troisième condition, l'acceptation des enfants. Notre Seigneur Jésus-Christ abandonna en quelque sorte son père lorsqu'il descendit des cieux sur la terre. Il abandonna même sa mère, c'est-à-dire la synagogue, en punition de son infidélité. Il s'attacha à son épouse, c'est-à-dire à la Sainte Église, et ils sont deux dans une seule chair, c'est-à-dire Jésus-Christ et l'Église dans un seul corps. Donc derrière le mariage chrétien, symboliquement, il y a le mariage entre la divinité et l'humanité dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc un homme doit aimer son épouse, un époux doit aimer son épouse et être attaché à son épouse comme notre Seigneur Jésus-Christ a été attaché à l'Église. L'Église étant l'épouse mystique du Christ. Donc de même qu'on dit de ceux qui s'aiment d'un amour spirituel qu'ils ne font qu'une seule âme, comme l'atteste l'Écriture, tous les croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, dans les Actes des Apôtres chapitre 4, ainsi on dit de l'homme et de la femme qui s'aiment d'un amour selon la chair, qui ne sont qu'une même chair. Or, c'est une chose horrible de couper ou de déchirer sa propre chair. Il ne l'est pas moins de séparer la femme de son mari. Aujourd'hui, c'est très important de rappeler ces choses qui sont absolument élémentaires. Parce que malheureusement, cet esprit moderne a pénétré dans les âmes, même parfois les plus catholiques. Et on finit par avoir parfois même des catholiques presque de tradition parfois, ou qui sont même de tradition, qui sont tentés par une annulation de mariage auprès de l'Église de Vatican II, sous prétexte par exemple qu'ils ont été mariés, que lorsqu'ils se sont mariés 5, 10, 30, 40 ans auparavant, ils se sont mariés sans avoir suffisamment de maturité. Et ils estiment que cela suffit pour annuler un mariage. Non! Si on se marie avec l'intention d'avoir les enfants, avec l'intention de rester fidèlement avec son épouse pour toute la vie, et qu'on accepte l'indissolubilité par divorce, donc le mariage est valide. Or, 99,9% des gens qui se marient, surtout dans les milieux catholiques, qui se marient religieusement, se marient avec l'intention d'avoir les enfants, d'accepter les enfants, et d'accepter l'unité et l'indissolubilité. Donc, il est évident, encore une fois, que le bon Dieu peut autoriser, dans certains cas, une séparation, soit, j'en ai déjà parlé, soit totale séparation de maison, soit séparation de lit, séparation de chambre, s'il y a une raison grave proportionnée. S'il n'y a pas de raison grave proportionnée, ce n'est pas possible. Bon, l'exemple classique, c'est le divorce. C'est c'est l'adultère, pardon. L'adultère, non pardonné, peut permettre aux époux, dans cette situation-là, de se séparer, dans certains cas, même pour toute la durée de la vie. Mais tant que l'époux ou l'épouse légitime est vivant ou est vivante, eh bien, le mariage est toujours là, le sacrement de mariage existe, et ces personnes ne peuvent pas, en aucun cas, se marier avec quelqu'un d'autre. Même si l'Église de Vatican II dit le contraire, et accorde aujourd'hui des centaines de milliers de soi-disant annulations de mariage, surtout pour motif de manque de maturité. Moïse, donc c'est là l'explication que donnent les pères. Moïse, voyant que le désir d'épouser d'autres femmes, ou plus riches, ou plus jeunes, ou plus belles, était pour les premières épouses une cause de mauvais traitement et de mort, ou pour les maris de conduite licencieuse, aima mieux permettre le divorce que de laisser persister les haines et les homicides. Encore une fois, le divorce dans ce cas-là, permettait une séparation, ce qu'on appelle l'hypel de répudiation, mais en aucun cas un remariage tant que l'époux légitime était toujours vivant. C'est le verset 9 qui vient juste après. Je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère, et que celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Alors attention, parce que ces lois ne peuvent pas changer, parce que là on touche à la loi naturelle. L'Église n'a donc aucun pouvoir de délier, ce que Dieu a uni. Il faut que les choses soient claires. Et il faut arriver maintenant, ça c'est pas facile du tout, j'en parle un peu parce que c'est un énorme problème, il faut arriver à faire sortir ça de l'esprit de nos jeunes et des parents. Et surtout des jeunes, donc ils finissent par se convaincre eux-mêmes que dans certains cas, on peut avoir une annulation de mariage, un mariage valide, qui pourrait être annulé et permettre un remariage religieux. C'est absolument impossible tant que la personne que l'époux légitime est vivant. Il faut que les choses, encore une fois, de ce côté-là soient claires. Alors, il y a une belle phrase des pères ici que j'ai citée en bas de la page 26 parce qu'elle est très belle. Comme deux chevaux sont attachés ensemble par un joug pour tirer un chariot, ainsi deux époux sont attelés ensemble sous le joug du mariage pour pouvoir le soutenir et ainsi procréer et élever des enfants. On ne peut pas élever d'enfants sans une union entre les parents, c'est absolument évident. Donc, que les choses soient parfaitement claires. Le problème, j'en ai déjà parlé souvent dans les cours sur le mariage, le problème c'est que de plus en plus nous avons des gens qui se marient ensemble religieusement et qui gardent dans un coin de leur cervelle, dans un coin de leur intelligence, une petite condition qui dit si ça marche pas, j'irai me démarier dans l'église de Vatican II pour me remarier après. On a même eu, j'ai eu un cas, j'ai connu plusieurs cas, comme ça, on pourrait vous en parler, je pourrais même donner des noms, ce que je ne ferai pas bien entendu, de personnes qui se sont mariées religieusement dans la tradition catholique, se sont démariées tout à fait irreligieusement dans l'église de Vatican II, et après sont revenus se remarier, essayer de se remarier dans l'église traditionnelle catholique, dans l'église de la tradition, dans l'église catholique de toujours, sous prétexte qu'il y avait eu une annulation de mariage. L'annulation de mariage n'existe pas. Un mariage, encore une fois, un mariage consommé, ratifié, consommé entre deux époux catholiques, ne peut être, un mariage religieux bien sûr, ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. C'est-à-dire que le bon Dieu lui-même ne peut pas annuler ça. Et donc, le prêtre n'a pas le pouvoir, la fraternité Saint-Félix n'a pas ce pouvoir, et le pape lui-même n'a pas ce pouvoir. Alors, en bas de la page 26, j'ai mis ici des textes qui viennent des pères de l'Église qui justement expliquent pourquoi un époux ne peut pas se séparer de sa femme. Bon,
Pourquoi ? Parce que tout simplement, une telle séparation va contre la nature. Le mariage étant le droit naturel, une séparation dans le mariage est contre naturel, surtout par rapport aux enfants. Pourquoi ? Parce que l'union entre les époux va permettre, l'union physique, mais aussi l'union morale, va permettre non seulement la procréation des enfants, mais aussi d'élever les enfants dans la foi catholique. Donc, le Christ prouve, disent les pères, qu'un époux ne peut pas se séparer de sa femme pour deux raisons. Première raison, qu'un homme se séparer de sa femme est contraire à la nature, de même qu'il est contre nature pour une chair d'être divisée en deux. Les deux époux forment une seule chair. Deuxièmement, que le divorce est contraire au commandement de Dieu. Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni. Verset 6 du chapitre 19 de Saint Matthieu. Alors, les pères insistent aussi sur les raisons pour lesquelles Dieu a ordonné l'indissolubilité absolue du mariage. Donc, il faut expliquer aussi, parce qu'il y a aussi pas moins de confusion, la différence entre l'indissolubilité et l'unité. C'est pas tout à fait la même chose. L'indissolubilité veut dire absence de divorce, plus exactement absence de remariage après divorce. L'unité indique un homme avec une femme. C'est-à-dire que lorsqu'on se marie religieusement, il faut avoir dans l'esprit, pour que le mariage soit valide, le contrat de mariage soit valide, d'abord l'idée de l'indissolubilité, c'est-à-dire je me marie avec telle personne, donc en tant qu'époux, je me marie avec mon épouse, en tant qu'épouse, je me marie avec mon époux pour la vie tout entière, jusqu'à la mort. Donc je n'accepterai pas un remariage après divorce. Bon, il peut y avoir certains cas, encore une fois, malheureusement pour des mariages qui ne fonctionnent pas du tout, il vaut mieux dans certains pays même, malheureusement c'est comme ça que ça se passe, une séparation même provisoire après un certain nombre d'années de séparation physique, parce que les époux ne s'entendaient pas, donc il y a beaucoup trop de bagarres, ils sont séparés pour éviter de s'entretuer. Malheureusement dans certains pays c'est transformé immédiatement en divorce civil. Mais un divorce civil n'a aucune valeur devant Dieu. Et un divorce religieux n'existe pas. Donc même s'il y a un divorce civil, qui peut dans certains cas être nécessaire pour par exemple obliger la partie coupable, ou l'homme en général à payer à son épouse qui est séparée de lui et qui a des enfants en bas âge, pour que l'homme soit obligé par la loi civile de payer un support financier pour les enfants, mais un divorce civil interdit de toute façon tout remariage pour un catholique. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on dit que le mariage est indissoluble, ça veut dire qu'un remariage après divorce civil n'est pas possible. Voilà ce que ça veut dire. L'unité, par contre, ça veut dire un homme avec une femme. C'est-à-dire que je me marie avec telle personne, un homme se marie avec une femme, une femme se marie avec un homme, avec l'intention de ne pas être infidèle à son époux. Pas simplement de divorcer pour se remarier, mais aussi il faut être fidèle. Il faut avoir l'intention, je resterai avec mon mari et je n'aurai pas une autre personne dans l'histoire. C'est-à-dire, je n'aurai pas une autre femme ou un autre homme dans mon mariage, étant par la force des choses infidèle à mon époux ou à mon épouse. Et donc les deux choses sont nécessaires, et l'indissolubilité et l'unité. Et ces deux choses sont nécessaires aussi tout simplement pour permettre l'éducation et des enfants catholiques. Procréer les enfants c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Le but premier du mariage, attention, c'est pas simplement la procréation des enfants, mais c'est aussi l'éducation de ces enfants procréés. Alors, en bas de la page 26, donc je mets un texte ici des Pères de l'Église. Les raisons pour lesquelles Dieu a ordonné l'indissolubilité absolue du mariage sont triples. D'abord, premièrement, pour faciliter l'union et augmenter l'amour mutuel entre les deux époux. Donc, si les époux savent qu'ils se marient pour la vie entière, pour le meilleur et pour le pire, en vie courte ou en vie longue, en bonne santé ou en mauvaise santé, en richesse ou en pauvreté, eh bien évidemment, ils vont faire attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent pour pouvoir rester ensemble sans s'entretuer. Deuxièmement, l'indissolubilité absolue du mariage a été ordonnée par Dieu aussi pour faciliter pas simplement l'amour mutuel entre les deux époux, mais l'éducation des enfants. Et puis il y a également une raison allégorique dont j'ai déjà parlé. juste auparavant, parce que le mariage est le type et la figure de l'union indissoluble du Verbe divin avec notre chair et par elle avec l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de même que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne, de deuxième personne de la Sainte Trinité, a une double nature, humaine et divine, il est vrai homme et vrai Dieu, et qu'il y a une union, non pas un mélange, mais une union très étroite entre la nature humaine et la nature divine, de la même façon, si vous voulez, il faut cette union entre l'homme et son épouse. Bon, de même que l'union hypostatique entre la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est une unité, une union qui ne sera pas rompue, de la même façon, l'union entre deux personnes mariées ne doit pas être rompue, sauf bien sûr pour le cas des mariés, par la mort naturelle d'un des deux époux. Donc je rappelle ces trois raisons, l'amour mutuel entre les deux époux, l'éducation des enfants et la signification allégorique du mariage. Passons maintenant à verset 9, que j'ai déjà cité. Je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pas pour infidélité, en épouse une autre, commet un adultère, que celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Donc, vous voyez, là on voit très bien avec ce texte de Saint Matthieu chapitre 19 verset 9, on voit très bien que lorsque notre Seigneur parle d'un renvoi permis d'après le libelle de répudiation de Moïse d'une épouse par son époux, et cela n'entraîne pas la possibilité de se remarier. Donc, il n'y a donc que l'adultère qui puisse triompher de l'affection qu'on doit à son épouse. En effet, dès lors qu'elle a partagé son corps avec une autre et que par le crime de l'adultère, elle s'est séparée de son mari, il ne doit point la garder de peur de tomber lui-même dans cette malédiction de l'Écriture. Celui qui retient une femme adultère est insensé et méchant. Il est évident que ce qui est dit là par les pères concernant la femme adultère est tout aussi valable concernant l'homme adultère. Bon. Il faut aussi faire un petit peu attention dans l'interprétation de ce texte des pères, parce qu'il y a des cas où il vaut mieux, même après adultère, se réconcilier quand c'est possible. C'est pas facile. Mais il vaut mieux une séparation plutôt que s'entretuer, comme je l'ai déjà dit, mais il vaut mieux aussi, quand c'est possible, se réconcilier et de nouveau reprendre une vie conjugale normale, avec une union, avec la même table, le même lit, la même maison, le même toit, quand c'est possible. À condition que la personne qui est victime de l'adultère du conjoint pardonne vraiment du fond du cœur à son conjoint. Et ne soit pas constamment en train de rappeler à l'époux fautif et sa faute passée. Pourquoi? Parce que je dis toujours, quand les gens m'en parlent, ça arrive malheureusement souvent des cas comme ça, quand les gens me disent, monsieur l'abbé, mon époux est tombé dans l'adultère, je pense me séparer d'avec mon époux, je dis toujours la même chose, je dis attention madame, attention monsieur, souvent une séparation de ce genre est un marchepied qui va amener au divorce et du divorce au remariage, au mariage civil. Parce qu'il est dur pour l'homme et pour la femme de rester seul. Et donc, il est évident que après un adultère, dans certains cas, il vaut parfois mieux, je dis bien parfois mieux, une séparation ponctuelle, au moins pour un certain temps. Mais lorsque les deux personnes sont capables, lorsque la personne non coupable est capable vraiment du fond du cœur de pardonner à son époux, à son épouse coupable, et que le coupable a véritablement le regret de ce qu'il a fait, quand par exemple il a fait une bonne confession générale, une retraite, qu'il est vraiment décidé à repartir sur le bon pied, eh bien, ce serait une erreur à mon avis de rester séparé plus longtemps, parce que ces séparations sont extrêmement dangereuses. J'ai vu ça bien des fois, même pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'adultère. Les séparations de longue durée entre époux entraînent une instabilité très grande dans les ménages. Et j'ai connu plusieurs cas de mariages de ménages qui ont littéralement explosé parce que, ben, tout simplement pour des raisons professionnelles, par exemple, le mari n'était jamais là. Et l'épouse a pas tenu le coup, et puis à un moment, le mariage a explosé. Voilà. Alors, il n'y a qu'une seule raison matérielle qui puisse légitimer le renvoi d'une épouse, c'est l'adultère. Ou d'un époux, c'est l'adultère. Il n'y a qu'une seule raison spirituelle, et c'est la crainte de Dieu. mais il n'y en a aucune qui permette de prendre une autre épouse du vivant de celle qu'on a renvoyée. Vous voyez que les pères de l'Église sont clairs sur le sujet. Oui. Donc, en résumé, la conclusion de ce que je viens de vous expliquer, selon le texte de notre Seigneur, dans le chapitre 19 de Saint Matthieu, en permettant donc de renvoyer la première épouse, le Sauveur défend d'en prendre une autre du vivant de la première. On dit alors que le mariage est dissous quad toro, c'est-à-dire quant au lit, quant à la chambre conjugale, mais non quad vinculum, quant au lien. Le lien demeure tant qu'il y a vie des deux époux. Seule la mort dissout le lien matrimonial. C'est un peu difficile à comprendre et à expliquer aux gens qui ont le malheur de perdre un époux chéri ou une épouse chérie. Et souvent, les gens m'en parlent au moment des enterrements. C'est des moments douloureux, bien sûr. Ils me disent, Monsieur l'abbé, ce qui me console, c'est que je vais retrouver mon époux au ciel. Je vais retrouver mon épouse au ciel, j'espère bien. Et j'ai beaucoup de mal à leur expliquer que, après la mort de l'époux ou de l'épouse, même si il faut l'espérer, l'époux ou l'épouse décédée est au ciel, vous ne serez plus mariés. Puisque la mort aura dissous le lien du mariage. Donc, deux époux qui ont été époux sur la terre, mariés religieusement, qui se retrouvent au ciel, ne se retrouveront pas comme époux, parce que le lien de mariage aura disparu, étant détruit par la mort. Bon. En plus de ça, au ciel, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera tellement immergé dans l'amour du bon Dieu qu'on n'aura besoin de rien d'autre. Tout nous sera donné par cet amour du bon Dieu. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir près de nous notre ancienne épouse ou l'ancienne épouse du temps où nous étions sur la terre pour être heureux. La joie surnaturelle totale du paradis qui découle de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sans aucun obstacle est une joie qui efface toutes les autres. Donc, je répète cette phrase en page 27, donc le troisième paragraphe, quatrième paragraphe de la page 27, c'est la phrase clé à mon avis. En permanence, je répète cette phrase. En permettant donc de renvoyer la première épouse, le Sauveur défend d'en prendre une autre du vivant de la première. Le mariage est dissous quant au lit, quad torum, mais non quant au lien, quad vinculum. Il y a beaucoup d'hérétiques qui pensent que dans un cas d'adultère, le mariage est dissous quant au lien. C'est faux. Bon, ça a été enseigné par Luther, Calvin, Erasme, tous les luthériens, tous les calvinistes, tous les anabaptistes. Même, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup d'orthodoxes, pourtant, qui ont des sacrements valides, les orthodoxes schismatiques grecs, par exemple, et même russes, pratiquement dans toute l'orthodoxie, acceptent le divorce. Les groupes orthodoxes, même traditionnels, dans l'orthodoxie traditionnelle, je dirais, acceptent en général 3 divorces, ou 3 remariages. Ce qui est évidemment rend les mariages orthodoxes invalides. Donc, quand vous rentrez dans une église orthodoxe, je ne parle pas d'une église catholique de rite oriental. Hein. Si vous rentrez dans une église de rite catholique byzantin, par exemple, évidemment, il y a présence réelle, c'est évident, parce que vous êtes dans une église catholique, mais de rite qui n'est pas un rite latin, qui est un rite oriental. Mais si vous rentrez dans une église non catholique de rite orthodoxe, vous êtes dans une fausse église, mais une fausse église qui a les sacrements valides pour la plupart d'entre eux au moins. Vous entrez dans une église orthodoxe russe, par exemple, ou grecque, ou bulgare, il y a présence réelle. Leur messe est valide parce qu'ils ont le sacerdoce. Leur baptême est valide, leur confirmation est valide, mais leurs mariages sont invalides, tous, parce que ils n'ont pas la condition de l'indissolubilité. La condition de l'indissolubilité n'est pas remplie par eux, puisque tous les orthodoxes, tous, quels que soient les groupes, d'après ce que je sais, tous les groupes orthodoxes acceptent le remariage, acceptent 2 ou 3 divorces. Et ce qui fait que, comme la condition sine qua non pour la validité du mariage n'est pas remplie, les mariages sont invalides dans l'Église orthodoxe. Sauf peut-être cas très particulier où des orthodoxes se marieraient entre eux, devant leur pope orthodoxe avec l'intention de rester ensemble pour toute la vie, pour le meilleur et pour le pire, et ne pas accepter une tierce personne dans le mariage. Dans ce cas-là, vraisemblablement, le mariage orthodoxe deviendrait valide parce que la condition qui annulerait ce mariage, à savoir l'acceptation d'un divorce et d'un remariage, ne serait pas acceptée. C'est un cas particulier. Alors, il y a eu malheureusement également, ça je ne le savais pas, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, je l'ai mis ici, au milieu de la page 27, il y a même quelques docteurs catholiques comme Cachetan et Catarini qui acceptaient, qui enseignaient que en cas d'adultère, le mariage religieux, donc le sacrement de mariage, était dissous quant au lien et donc permettait un remariage. Mais ça, c'est absolument pas catholique. On ne peut pas accepter des erreurs pareilles, c'est l'hérésie pure et simple. La tradition perpétuelle de l'Église est parfaitement claire sur ce sujet. Le mariage ratifié, je répète ce que j'ai déjà dit, le mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Donc j'ai mis ici les références. Romains chapitre 7, verset 1, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 et 11, et le Concile de Trente, les canons 6 et 7 de la session numéro 24. Celui donc qui renvoie son épouse pour cause d'infidélité et en épouse une autre ne commet pas l'adultère par son divorce, mais en épousant une autre femme. Donc, encore une fois, ce n'est pas le en soi, je dis bien en soi, le divorce qui est strictement parlant interdit, mais le remariage après divorce civil pour un catholique. Voilà, que les choses soient claires de ce côté-là. Donc, si vous faites partie de ces gens qui sont faits un peu contaminés par ce libéralisme enseigné partout maintenant dans les milieux de la tradition, du côté de la fraternité stabiliste entre autres, eh bien, mettez-vous ces idées hors de la tête. Hein. Moi, j'avoue que j'ai toujours un peu une angoisse quand je prêche les exercices de Saint-Ignace à des gens que je ne connais pas et qui sont des gens qui viennent de milieux, par exemple, de milieux influencés par la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, qui font leur confession générale, ou qui viennent faire la retraite avec moi, les premières, et qui sont mariés religieusement, par exemple, dans la fraternité Saint-Pilice. Je suis obligé tout de suite de leur poser la question, attention, je prends trois paires de gants pour le faire, mais je pose quand même la question, attention, est-ce que vous n'avez été marié qu'une seule fois? Et si les gens me disent, ah ben, j'ai eu un mariage religieux, puis une annulation de mariage accordée par l'Église de Vatican II, ou par la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, et je me suis remarié religieusement, je peux pas leur donner absolution, c'est absolument impossible. Je leur explique pourquoi. Encore une fois, un mariage n'est pas un mariage religieux catholique entre deux catholiques, ratifié et consommé, ne peut pas être annulé. C'est absolument impossible. Il peut y avoir, attention, il peut y avoir des cas, ça j'en ai rencontré, c'est rare, mais enfin ça peut arriver, il peut y avoir des cas de deux personnes catholiques qui se croient de bonne foi mariées religieusement et qui en fait ne le sont pas. Exemple, imaginez une personne qui est mariée avec une autre, avec un homme qui est marié avec une femme dans le milieu catholique, la tradition, il se marie religieusement avec toutes les préparations normales, avec l'intention de rester toute sa vie avec son épouse, et puis avec son époux. Et puis 5 ans, 10 ans, 15 ans, moi j'ai eu un cas comme ça que j'ai connu, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, on découvre que l'époux a déjà été marié religieusement avec une autre personne et qu'il a caché son premier mariage antérieur, un mariage religieux valide, et que sa première épouse est toujours vivante. Dans ce cas-là, il est évident que le deuxième mariage n'est plus un mariage puisqu'en fait l'époux était déjà marié avec quelqu'un d'autre. Donc il y a un empêchement d'iriment qu'on appelle un empêchement d'iriment de lien pour lequel il ne peut y avoir aucune dispense, jamais. Et donc le deuxième mariage est absolument invalide. Mais ce n'est pas une annulation d'un mariage qui était valide, c'est la reconnaissance que ce deuxième mariage que l'on croyait valide est en fait absolument invalide. Donc que les choses soient claires. Passons au chapitre, donc au verset 10 à 12 du chapitre 19 de Saint Matthieu. Ses disciples dirent à Jésus, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère, il y a des eunuques qui ont été faits tels par les hommes, il y a des eunuques qui ne se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Nous sommes en bas de la page 27 sur le polycopie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon l'esprit de l'Église, la chasteté vraiment méritoire et glorieuse n'est pas celle qui vient de l'impuissance d'un corps incapable d'enfreindre cette vertu, mais celle qui résulte de la résolution libre et sainte de garder la continence. Il y a eu quelques cas dans l'histoire de l'Église, notamment avec Origène, docteur de l'Église, extrêmement connu, des premiers siècles de l'Église, qui avait pris ce texte de notre Seigneur au pied de la terre, au pied de la lettre, pardon, qui s'était mutilé lui-même par amour de la chasteté. Mais il eut tort d'agir ainsi parce que ce genre de mutilation est immoral. Donc, cela n'enlève pas les tentations de luxure, mais les enflamme. Donc, il faut encore une fois que les choses soient claires dans ce domaine. C'est une des raisons pour laquelle Origène n'a jamais été canonisé par l'Église. Ce qui s'était fait littéralement, il s'était fait opérer, si vous voulez, pour parce qu'il est mal compris ce verset 12, chapitre 19. Il y a des eunuques qui ont été faits tels par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ ici parle de ceux qui, par amour de Dieu, se rendent eunuques pour le royaume des cieux. Ça veut dire qui, par amour de Dieu, pratique la vertu de chasteté et de façon volontaire et parfaitement libre, décide de ne pas se marier, de pratiquer la chasteté parfaite par amour pour le bon Dieu. Donc la chasteté vraiment méritoire et glorieuse est celle qui vient d'une résolution libre et sainte de garder la continence. Ici, il y a des pères de l'Église qui expliquent les choses. Je reprends le texte. Qu'il y en ait qui soient eunuques de naissance, on ne peut l'attribuer qu'à la création. De même que ceux qui naissent avec 6 ou 4 doigts. Car si Dieu laissait la nature de chacun des êtres créés suivre d'une manière immuable l'ordre qu'il a établi dès les commencements, les hommes finiraient par oublier l'opération de la toute-puissance divine. C'est pourquoi la nature des choses contrevient de temps en temps aux lois naturelles établies pour rappeler sans cesse au souvenir des hommes que Dieu est l'artisan souverain de la nature. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le bon Dieu permet pour certaines personnes des anormalités physiques, eh bien, le bon Dieu donne les grâces. Le bon Dieu donne les grâces. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut avoir de fortes tentations à cause peut-être de l'éducation qu'il a reçue, du milieu dans lequel il a vécu, mais que ça veut dire que ces tentations sont une excuse pour lui pour tomber. Bon, c'est un point qui m'amène à parler d'un détail dont je n'aime pas trop parler, mais enfin, je voudrais quand même que les choses soient claires là-dessus, parce que c'est malheureusement des objections qu'on entend de plus souvent. Des hommes qui me disent, monsieur l'abbé, je ne suis pas attiré par, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais été attiré par les filles et par les femmes, je ne suis attiré que par des gens de mon sexe. Est-ce que ça peut me permettre d'accepter de vivre maritalement avec quelqu'un de mon sexe? La réponse est catégoriquement pas question. Bien sûr que non, parce que ça reste un péché contre nature qui crie vengeance contre le ciel. Il faut bien se rappeler l'enseignement du catéchisme traditionnel de l'Église. Il peut y avoir des tentations d'ordre naturel, c'est sûr. Mais c'est pas parce que quelque chose est naturel et correspond à la nature viciée dans tel individu, parfois pour des raisons dont il n'est pas responsable. C'est pas de la faute du jeune homme qui me dit, monsieur l'abbé, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais été attiré par les femmes, je suis attiré que par d'autres hommes. C'est une situation très triste, une situation troublante, une situation qui est malheureuse. Mais le bon Dieu est obligé de vous donner les grâces, monsieur. Donc c'est évident que vous êtes dans une situation très délicate parce que bientôt vous ne pouvez pas envisager la vie religieuse. Il n'est pas question d'envoyer en vie religieuse quelqu'un qui a ce genre de tentation. Il n'est pas question pour vous de vous marier puisque vous n'êtes pas attiré du tout par une femme. Eh bien, le bon Dieu vous demande dans ce cas-là de rester tout seul. Et j'ai connu dans plusieurs pays des gens qui avaient ce genre de tentation et qui, avec la grâce du bon Dieu, se sanctifiaient tous les jours parce qu'ils se confessaient régulièrement. Ils faisaient très attention de ne jamais aller dans des lieux où vous allez rencontrer des sodomites ou des gens qui avaient ce genre de tentation et qui sont restés en état de grâce, qui ont vécu en état de grâce et qui sont morts comme des saints. J'en ai rencontré et pas qu'un. Oui. Donc il faut que les choses soient claires. C'est comme si quelqu'un me disait, monsieur l'abbé, moi, à cause du milieu familial dans lequel j'ai vécu, je suis attiré depuis que j'ai 15 ans, je suis attiré par l'alcool. Bon, dès que je vois une bouteille d'alcool, j'ai plus qu'une envie de se sauter dessus, d'abord jusqu'à la lit. Bon, est-ce que ça me donne une excuse morale pour me saouler? Bien sûr que non, monsieur, parce que le bon Dieu vous donne les grâces. Et si vous continuez, et si vous battez, si vous prenez les moyens surnaturels à votre disposition, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, la pénitence, faire très attention de ne pas vous mettre autour, de ne pas être dans un milieu, de ne pas avoir des amis dans le milieu de gens qui boivent trop, de ne pas aller dans des bars dans lesquels vous allez rencontrer des gens comme ça, eh bien vous pouvez parfaitement rester en état de grâce avec la grâce du bon Dieu et vous sanctifier énormément parce que c'est des croix terribles. J'ai connu des gens qui avaient des croix comme ça, mais c'était terrible. Donc il ne faut pas sortir ce qu'on entend beaucoup trop souvent, parfois même dans les milieux de la tradition. Ah ben c'est selon la nature, c'est pas la faute du jeune homme, il a cette tentation, mais c'est d'ordre naturel, donc on peut accepter parce que c'est la nature. Non, il peut y avoir des erreurs de la nature, comme on dit, des choses naturelles qui viennent de la nature, mais qui pour une raison génétique ou autre, eh ben, la nature ne fait pas les choses normalement, mais le bon Dieu donne à ce moment-là les grâces pour que cette personne puisse se sauver de toute façon. Que Dieu est obligé de donner à chacun d'entre nous les grâces dont nous avons besoin pour nous sauver. Donc si on se sauve, c'est grâce à Dieu. Si on ne se sauve pas, c'est notre faute. Alors, cette phrase, donc, je l'ai mise en caractère gras, en bas de la page 27, c'est pourquoi la nature des choses contrevient de temps en temps aux lois naturelles établies pour rappeler sans cesse au souvenir des hommes que Dieu est l'artisan souverain de la nature et qu'il donne les grâces nécessaires. Donc, lorsque Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, parle au verset 12 des eunuques qui se sont rendus eux-mêmes tels à cause du royaume des cieux, ou des eunuques qui ont été faits tels par les hommes, en fait, ce qu'il veut dire par là, et c'est qu'il ne veut pas parler de ce que le Seigneur dit qu'ils se sont faits eunuques. Il ne veut point parler du retranchement d'aucun membre, mais de la mortification des pensées mauvaises. Bon. Ce sont des eunuques spirituels. Si l'âme est mortifiée, n'a rien à craindre des mouvements naturels de la concupiscence, de même que cette mutilation d'un membre ne suffit pas pour réprimer les tentations et pour donner la paix à l'âme en mettant comme un frein aux passions, aux pensées mauvaises. Donc, il faut voir les choses de façon allégorique dans ce cas-là. Hein. C'est comme Saint Paul qui parle parfois de la circoncision spirituelle. Circoncision spirituelle, ça veut dire se couper dans sa vie de tous les jours des choses qui nous éloignent de Dieu. À la page 28. J'ai mis ici des exemples historiques qui sont intéressants. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Dans la préparation de ce cours, je n'ai pas le temps de mettre toutes les références, mais j'ai trouvé ça dans un livre que j'ai utilisé pour préparer le cours, je ne me rappelle plus lequel. Donc Caton disait « L'épouse est un mal nécessaire ». Bon, il faut comprendre dans quel sens il le dit, c'est évident. L'illustre Saint Thomas More, qui souffrit le martyr sous le roi d'Angleterre Henri VIII, à qui on demandait pourquoi il avait épousé une femme petite de taille, répondit malicieusement « De tous les maux, j'ai choisi le moindre ». Bon, c'est pas très gentil pour les épouses, mais il faut comprendre dans quel sens il le dit. Donc l'aiguillon du désir ne vient pas du cerveau ni des reins, mais d'un esprit lascif qui néglige de contrôler les pensées. Donc par la vertu de chasteté, par la vertu de tempérance, une vertu cardinale, donc le bon Dieu nous permet de châtier et de mortifier les tentations qui viennent de la concupiscence de la chair. Le bon Dieu est obligé de nous donner cette vertu. Donc, rappelez-vous qu'il y a ces trois vertus morales trois vertus essentielles pour lutter contre les tentations de la chair. Et pour lutter, je veux dire, contre les trois concupiscences. Donc, il faut la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Donc, il est de notre pouvoir, disent les pères, il est en notre pouvoir, avec la grâce de Dieu, de faire de nous des eunuques en vivant dans la chasteté, le célibat, et même de s'y obliger par un vœu perpétuel. C'est la chasteté personnelle. Par ce vœu de continence, on s'enlève le pouvoir d'engendrer, ce qu'a voulu dire notre Seigneur. Donc, c'est une circoncision spirituelle, donc une mortification des pensées mauvaises. Quand il parle d'un eunuque, il parle d'un eunuque spirituel en fait. Il y a une personne qui, par amour de Dieu, se prive de toute une série de joies qui pourraient être les parfaitement légitimes dans le cadre du mariage. Alors, l'enseignement de Luther est encore pire. Pour lui, un homme ne peut pas vivre sans épouse, pas plus qu'il ne peut vivre sans boire ni manger. Donc pour un hérétique, c'est peut-être vrai, mais pas pour un catholique qui est renversé par la foi et la grâce du Christ. C'est là où il faut vraiment croire à la grâce du bon Dieu. Il y a des cas vraiment, des cas douloureux. J'en ai connu plusieurs dans mes 40 ans de sacerdoce. Des cas vraiment, vraiment, où le bon Dieu demande l'héroïsme. Des épouses qui ont perdu leur mari, qui est parti avec une autre au bout de 5 ans de mariage et laissant sur le carreau avec 2-3 enfants en bas âge, sans argent, sans rien du tout, qui se retrouvent toutes seules et qui doivent éduquer avec un grand courage leurs époux. Et puis elles perdent de vue complètement leur mari légitime qui est parti vivre en concubinage avec une autre, qui est parti dans un autre pays. Et puis c'est toujours pareil, c'est là évidemment où le démon permet et s'arrange pour que cette femme catholique rencontre un bon catholique qui veut la rendre heureuse, qui elle vient me voir en me disant, monsieur l'abbé, j'ai enfin rencontré quelqu'un, j'ai fait une grosse bêtise de marier la première fois, bon, mais est-ce que je peux convoler en juste noce de nouveau, maintenant j'ai enfin trouvé quelqu'un avec la vraie foi catholique. Madame, vous êtes déjà mariée. Mais mon mari a disparu, il est avec une autre à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce que j'y fasse? Il est toujours votre mari? Tant que vous êtes mariée avec lui, tant qu'il est vivant, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors, c'est d'autant plus difficile que c'est dans ces cas-là, elles savent, ces femmes savent qu'elles peuvent malheureusement aller voir des prêtres un peu laxistes ou libéraux, que ce soit dans la fraternité Saint-Bénis ou ailleurs, qui vont les démarier, les remarier religieusement, et après elles essaient de revenir tranquillement avec un autre mari, alors que leur mari légitime est toujours vivant à l'autre bout du monde. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans des cas comme ça, qui sont des cas extrêmement douloureux, le bon Dieu est obligé de donner les grâces, et donne les grâces proportionnées. Passons au chapitre, donc toujours dans le chapitre 19 de Saint Matthieu, au verset 13, 14 et 15. On présenta alors à notre Seigneur des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, et les disciples les repoussaient. Mais Jésus leur dit, laissez ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Donc, qu'est-ce que veut montrer notre Seigneur par ce texte? Il veut montrer que ce n'est pas à l'âge, mais à la pureté des mœurs qu'appartient le royaume des cieux. Et que à ceux qui imitent leur innocence, l'innocence des enfants, et leur simplicité, que la récompense est promise. Encore une fois, il y a un sens symbolique derrière, c'est-à-dire que il faut que nous devenions petits-enfants, spirituellement parlant. Il faut que nous devenions petits-enfants au niveau des tentations pour arriver à retrouver la pureté et l'innocence d'un enfant. Ce qui est possible avec la grâce du bon Dieu. Parfois, des gens qui ont vécu une très mauvaise vie, je pense à Sainte Marie-Madeleine, par exemple, ou Saint-Augustin, mais qui ont retrouvé, avec la grâce du bon Dieu, après une longue vie de sacramentel, une longue vie de pénitence, et bien qui ont retrouvé, je dirais, presque les joies d'innocence. Les joies de l'innocence, parce que justement leur pénitence leur a valu des grâces particulières du bon Dieu pour qu'ils puissent rattraper les bêtises du passé. Le bon Dieu est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Donc voilà le sens dont je, symbolique dont je parlais, dans ce sens mystique. Donc c'est en bas de la page 28. Dans le sens mystique, nous appelons enfants ceux qui sont encore charnels en Jésus-Christ et qui ont encore besoin de lait, du lait spirituel. Ceux au contraire qui professent la doctrine du Verbe, mais qui sont encore simples et nourris d'un enseignement approprié à la faiblesse du jeune âge, sont encore novices, sont encore novices, et ce sont eux qui présentent au Sauveur les enfants et les petits. Mais ceux qui sont plus parfaits, c'est-à-dire les disciples de Jésus, avant de connaître les dispositions de la justice divine à l'égard des enfants, s'élèvent contre ceux qui, à l'aide d'une doctrine élémentaire, présentent à Jésus-Christ les enfants et les petits, c'est-à-dire les moins instruits. Et donc, il faut avoir le courage de s'occuper d'abord en priorité de ceux qui sont moins instruits, des petits. C'est pour ça que notre Seigneur a dit « Laissez ces petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous devenons des enfants spirituellement parlant. Donc, les enfants ne sont pas simplement ceux qui s'approchent de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont besoin de lait spirituel. Les enfants sont aussi, disent les pères, la figure des gentils, des non-catholiques, qui ont retrouvé le salut par la foi et parce qu'ils ont entendu. Cependant, les disciples, dans le désir qu'ils ont de sauver d'abord le peuple d'Israël, les empêchent d'approcher. Le Seigneur alors leur défend de les éloigner, car le don du Saint-Esprit devait être accordé aux gentils par l'imposition des mains et par la prière après l'abolition des prescriptions légales. Notre Seigneur Jésus-Christ non seulement accepte les petits-enfants, mais il accepte aussi ceux qui viennent en dehors du cercle des Juifs. Ça scandalisait d'ailleurs les membres de l'Église juive, autant notre Seigneur Jésus-Christ, de voir que notre Seigneur Jésus-Christ acceptait d'aller aussi prêcher l'évangile à des non-juifs. Au début, beaucoup de juifs pensaient que la religion prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'une religion réservée exclusivement aux juifs. Non, c'est pour tous les hommes. Donc, moralement parlant, que les princes apprennent du Christ qui, bien que roi des rois et seigneur des seigneurs, se rend accessible aux pauvres, aux femmes et aux enfants et écoute gracieusement leurs supplications et leurs demandes. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ se fait tout petit avec les petits. Et ça, c'est important d'arriver à être à l'aise, je dirais, un peu dans tous les milieux. C'est très important pour un prêtre. C'est difficile parce que, qu'on le veuille ou non, on sera vraiment à l'aise que dans notre propre milieu, le milieu dans lequel on a été élevé à la maison. Mais il faut aussi, même dans un milieu social qui n'est pas le nôtre, il faut pouvoir prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas toujours évident. Moi, j'avoue que j'ai parfois bien du mal dans les pays de mission, dans un milieu qui n'est pas du tout le mien, de devoir prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Avec des gens avec lesquels, avec des méthodes d'éducation que je constatais dans certaines familles qui ne correspondaient pas du tout à celles que j'avais vues dans ma propre famille. Alors, en bas de la page 28, c'est un très beau texte de Victor d'Antioche qui mentionne ici plusieurs raisons naturelles pour lesquelles le Christ un tel amour pour les petits, pour les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors voyons un petit peu ce que dit Victor d'Antioche. Il y a plusieurs textes similaires à celui-là. Il y en a un très beau aussi que je n'ai pas trouvé. Je crois que c'est de Saint Jean Chrysostome qui dit à peu près la même chose sous d'autres termes. Donc voilà ce que dit Victor d'Antioche. L'esprit d'un enfant est pur. Il ne se souvient pas des injures, ni ne médite une revanche. Donc il est libre de toute passion vicieuse. Donc l'enfant, ne gardant pas de mauvaises pensées en son cœur, parce qu'il est encore innocent, ne se souviendra pas même des injures reçues, et donc pardonne très facilement. C'est pour ça, deuxième raison, que même châtié sévèrement par sa mère, il se précipitera sur elle et s'attache à elle plus qu'à toute autre femme, parce qu'un enfant, de 3-4 ans par exemple, ne gardera pas de rancune contre quelqu'un. Si vous lui présentez même une reine sainte de son diadème royal, il préférera sa mère vêtue de guenilles à la reine revêtue de ses vêtements royaux. Parce qu'il a Dieu que pour sa mère. Il ne se préoccupe pas du tout du niveau social de sa mère par rapport au pays dans lequel il est. Il ne demandera pas plus que la nature exige. Sitôt satisfait, il laisse le sein de sa mère. Il ne survaut pas la perte de biens qui nous semblent très importants tels que l'argent ou des bijoux. Il ne se laisse pas dominer par la beauté du corps comme le font la plupart des gens. Il y a dans l'enfant une sorte de caractère vénérable du vieillard et dans un âge avancé l'innocence de l'enfant. Et donc, encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me permets de réinsister parce que c'est tellement important que tous vous ayez, à mesure de vous trouver un petit peu de temps, c'est après le cours, avoir écouté le cours en audio sur le site, et bien que vous retravaillez le polycopié, que vous relisiez au moins le polycopié pour que vous relisiez ce polycopié pour bien vous mettre dans la tête ce que disent tous ces pères de l'Église. C'est par la répétition et c'est par la lecture répétée aussi que l'on comprend beaucoup de ces choses. Nous allons terminer par la prière. Donc nous en sommes maintenant à la page 29, toujours dans le chapitre 19, au verset 16, que nous prendrons, si Dieu veut, la prochaine fois.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.